Louer et remercier soit le Seigneur. La crainte, l'amour n'est pas dans la crainte. L'amour parfait chasse la crainte. Nous n'avons pas chanté qu'il n'y aura pas de détresse, mais la crainte n'a pas besoin d'être là dans notre vie. Le Seigneur a toujours dit, ne craignez pas. Toujours de nouveau. Vous pouvez lire et regarder dans l'Ancien et le Nouveau Testament et lire toujours de nouveau. Ces paroles ont été prononcées. Ne crains rien. Ou bien alors au singulier, ou bien alors au pluriel, ne craignez rien. Dans un verset, le Seigneur dit même, vous avez, dans le monde, vous avez peur, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Parfois, on pourrait avoir peur. Quand on regarde aux choses terrestres ou bien aux circonstances, mais nous regardons au Seigneur qui, d'une manière merveilleuse, achèvera toutes choses pour l'honneur et la gloire de son nom. Nous avons dans le psaume 27 lu, David est passé par, dans sa vie par beaucoup de difficultés, mais de tout son cœur, il est resté attaché au Seigneur. Et ça, c'est le grand mystère avec un enfant de Dieu, avec un homme qui marche avec Dieu. Mais ensuite, au verset 9, il exprime « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton esclave serviteur dans ta colère. » Il n'y a pas plus grave que d'avoir l'impression que Dieu nous en veut. Ça, c'est un état qu'on ne peut pas bien supporter. Mais Dieu ne peut pas nous en vouloir. Il nous a tourné sa face en Jésus-Christ. Il a tourné sa face vers nous en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. La colère qui devait tomber sur nous l'a atteint, l'a frappé, à tel point que nous pouvions être acquittés et repartir libres. Au verset 9, il est écrit, plus loin, tu as été mon secours. Ne me rejette pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueille. Comme fidèle à notre Dieu, même si une mère oublierait son enfant, Dieu pense à son peuple. Il ne veut pas l'oublier. Nous sommes gravés dans sa main. Il ne peut pas nous renier. Il restera même fidèle, même si nous sommes infidèles. Il reste même fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et nous pouvons nous abandonner, lui faire confiance entièrement à lui. Au verset 11, il est écrit, enseigne-moi ta voie éternelle et conduis-moi dans le chemin droit à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la cupidité de mes oppresseurs, car des témoins de mensonges se sont levés contre moi, et etc., etc. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a promis de prendre soin de nous. J'ai ouvert le livre de Cantiques et j'ai regardez, je connais pas la mélodie du cantique, mais celui qui a écrit le plus de cantiques dans ce livre, Johannes Paul, donc Jean-Paul, il écrit ici, si tu sers le Seigneur comme un fidèle esclave serviteur, bientôt une querelle s'allumera. Le diable t'entraînera dans la bataille et te combattra de toutes ses forces. Mais Dieu soit loué. Il a déjà été vaincu depuis longtemps. Une seule parole que Jésus prononce fait la lumière, tout à fait la lumière. Le deuxième couplet, l'obscurité t'entoure, les tempêtes t'entourent. Si une véritable tempête rend ton chemin difficile, cela t'apportera du profit. Remets tout simplement au Sauveur. Parfois, nous ne savons même pas ce qui nous amène du profit, ce qui nous fait du bien, ce dont nous avons besoin. Nous aurions sûrement pris une autre décision. Le troisième couplet. Si un ami que tu as aimé va chez tes ennemis et se livre à eux au point de te trahir, pardonne-lui volontiers et dis-le au Seigneur. Oui, ça aussi, nous devons l'apprendre. Des amis intimes subitement deviennent des ennemis. Cela est une douleur. Des gens qui se tenaient le plus proche de toi. Et là, la douleur est encore plus grande. Le quatrième couplet, sûrement que vous avez encore ouvert avant moi. J'ai commencé à lire dès le début. Le quatrième couplet dit, même si le divorce te touche un jour, si tu restes seul, si la vie te prépare des tourments, si tout bonheur terrestre s'enfuit, que celui qui a porté tes péchés te suffise. Une seule parole, celle que Jésus prononce, rend la lumière toute lumière. Ce cantique s'ajuste même avec le premier verset dans le psaume que nous avons lu, psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Notre Dieu produit tout en tous. Il a le premier et le dernier mot. Il jugera selon sa parole, car le ciel et la terre passeront. Mais sa parole reste éternellement. Il fera justice. Ces dernières semaines, il y a deux choses qui m'ont touché le cœur particulièrement. L'une d'elles, mercredi, ici, alors que nous avions lu de 1 Corinthiens 3, je crois que c'était 1 Corinthiens 3, et encore ce dimanche à Zurich, concernant la loi royale, de laquelle Jacques parle. Dieu veut faire de nous de telles personnes qui marchent dans ses voies, des hommes qui vivent sa parole, des hommes sur lesquels il peut s'abandonner, sur qui il peut compter. Le frère Kupfer et quelques autres, nous étions ensemble et il disait, nous pouvons seulement comprendre que c'est une chose sainte dans laquelle nous nous tenons. Que c'est, oui, une chose sainte. Je crois que nous pouvons tous le dire ainsi. Si nous puissions devenir conscients de quoi il s'agit maintenant, que la chose dans laquelle nous nous tenons est la chose de Dieu, est l'œuvre de Dieu, la cause de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu ramène à Dieu, reconduit à Dieu, que ce soit sa parole, son esprit, tout ce que Dieu est saint. Et si nous avons reconnu que dans ces jours, il achève son œuvre, alors nous voulons faire attention, vraiment, faire attention à être une partie intégrante, à devenir une partie intégrante de sa parole, en ce que nous puissions dans notre vie voir l'accomplissement de sa parole. Pas seulement que ce soit des paroles que nous écoutions, mais qu'elles puissent aussi être confirmées dans notre vie et devenir vraies, réelles. Parfois, il y a des versets sur lesquels certains trébuchent. Il y a l'un d'eux est dans 1 Corinthiens, premier chapitre. La lettre est sur mon bureau. Il y a quelqu'un qui a demandé comment c'est que la folie de Dieu. Avez-vous déjà entendu cela? Oui, vous connaissez pas assez bien la Bible. Hein? Vous devez encore la lire depuis la Genèse. Qu'est-ce qu'en est de la folie de Dieu? Il m'a demandé. 1 Corinthiens, chapitre 1, Verset 25, ici il est écrit: car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu l'emporte sur la force des hommes. Maintenant, ce bien-aimé frère veut savoir en quoi consiste la folie de Dieu. En quoi consiste la faiblesse de Dieu? On doit presque sourire là-dessus. Comment nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu a fait de nous, des insensés, pour que nous ne nous égarions pas. Les sages s'égarent, mais les insensés ne peuvent pas s'égarer. Dieu a frayé un chemin, c'est comme ça que c'est écrit dans Ésaïe 35, où même un insensé ne peut pas s'égarer. Les sages, n'est-ce pas, s'égarent avec leur sagesse. Et il y a une parole en relation avec cela très merveilleuse dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, ici il est écrit à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Ésaïe 45, du verset 5 jusqu'au verset 7. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. C'est moi qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. C'est moi qui donne le salut et qui crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. Parfois, on pense, pourquoi est-ce que ceci, cela doit arriver? Mais tout passe par Dieu. Il porte pour tout la responsabilité. Il y a sûrement quelque part une parole, aussi dans Ésaïe, que même il a créé le destructeur. Oui, oui, Dieu fait ce qu'il veut. C'est écrit. Ésaïe 54, verset 16, et ça s'ajuste aussi très bien ici, au psaume que nous avons lu. Ésaïe 54, verset 16. C'est moi, en effet, qui a créé le forgeron qui allume le feu de charbon pour en faire un brasier et qui fabrique une arme avec son habileté. Et c'est moi aussi qui ai créé le destructeur pour détruire. Dieu était que bon. Il ne pouvait rien faire qui ne serait pas bon. Il devait créer un destructeur qui porterait la responsabilité quand des choses mauvaises doivent être faites pour qu'il en soit responsable. Ce destructeur, parce que de Dieu ne peut que venir du bon. Dieu, il est entièrement bon, entièrement. Et vous savez, dans une brochure, nous avons écrit dans laquelle la parole du prophète Ésaïe et aussi celle du prophète Ézéchiel est citée. Alors que Dieu le Seigneur avait créé Lucifer dans sa beauté, avec tout ce qui appartient à cela, mais avec un libre arbitre, il avait créé entièrement bon, mais son libre arbitre a causé, n'est-ce pas, ce désir de refuser de se soumettre et de pas rester subordonné à quelqu'un d'autre et soumis à quelqu'un d'autre, mais de s'élever. Et alors, sa chute vint. La même chose est aussi avec l'Antichrist, qui s'élève au-dessus de tout. Cela ne l'arrange pas. Il ne peut pas supporter que quelqu'un soit au-dessus de lui. C'est peut-être la raison qu'il doit se lever au-dessus de ce qui est tout ce qui est appelé Dieu, et donc culte rendu à Dieu. Et après lui-même, n'est-ce pas, il chute. Je crois que c'est dans Luc 10, Verset 18 ou 19, il est écrit que, voici, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan s'est élevé, et c'est peut-être raison qu'il est tombé. Et j'ai encore une parole dans Amos 3. Vous pouvez, vous la connaissez aussi tous par cœur. Verset 7, vous la connaissez. Amos chapitre 3, verset 6. Amos chapitre 3, et au verset 6, il est écrit la chose suivante. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que les gens soient effrayés? Un malheur survient-il dans une ville sans que l'Éternel Dieu en soit la cause? Dieu est désigné ici comme étant la cause de tout. Alors même que Moïse avait été envoyé pour délivrer les enfants d'Israël, il a endurci le cœur de Pharaon pour que ses prodiges soient énormes en Égypte, soient nombreux. Dieu peut faire ce qu'il veut. Et nous allons laisser toutes choses avoir lieu pour l'honneur de son nom. Donc, nous ne nous heurtons à aucune parole. Bien au contraire, dans la Bible, nous sommes reconnaissants pour chaque verset de ce que, par la grâce de Dieu, nous pouvons tout bien comprendre correctement. La parole sur la loi royale, ou bien la loi de la liberté, la loi royale, dans l'épître de Jacques, le chapitre 2, verset 8, je voudrais lire. Et ensuite, nous irons à Exode, chapitre 19. Vous savez, où partout où on prêche, les gens sont choqués quand on retourne à l'Ancien Testament. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Angleterre, j'ai vécu cela. Les gens n'ont pas pu comprendre que l'Ancien Testament est la parole contraignante de Dieu. Pour eux, c'était fini. Finish. Mis de côté, mis aux actes. Non, et encore une fois, non. Nous sondons dans les Écritures pour voir si tout est correct. Et toute la Bible est la parole de Dieu. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22. Jacques, chapitre 2, verset 8. Toutefois, si vous accomplissez la loi royale, selon cette parole de l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous agissez avec justice. Ici, il n'est pas parlé de la loi de Moïse, mais de la loi de la liberté, de la loi royale. Et nous allons tout de suite à Exode, chapitre 19. Mais d'abord, à Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19. Cette parole, en fait, que nous venons de lire dans Jacques 2, verset 8, est écrite aussi ici. Vous pouvez, dans Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 11, lire. Moi, je vais lire seulement à partir du verset 16. Ne te promène pas en calomniateur parmi les membres de ton peuple. Ne t'élève pas en justice contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne nourriras pas de haine dans ton cœur envers ton frère, mais tu corrigeras sérieusement ton prochain, afin de ne pas te charger d'une dette à cause de lui. Tu ne te montreras pas vengeur envers les membres de ton peuple. Tu ne leur garderas pas rancune, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Nous savons que ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'était le Seigneur, l'Éternel, qui avait prononcé ces paroles. Ne te promène pas en calomniateur parmi les membres de ton peuple. Ne t'élève pas en justice contre le sang de ton prochain, etc., etc. Nous avons lu concernant la loi royale, la loi de la liberté, dans laquelle toute la loi et tous les prophètes sont contenus. Car celui qui accomplit toute la loi et est coupable en un seul commandement, est coupable, est devenu coupable à toute la loi. Car c'est la même bouche qui a prononcé chaque commandement. Si alors quelqu'un accomplirait 99% mais 90% et manquera à un seul commandement, alors il est coupable à toute la loi. Mais le problème de la des dettes a été réglé à Golgotha, ça nous l'avons déjà dit. Maintenant, la prochaine question, on va voir si c'est aussi réglé. Si nos fautes sont pardonnées, nos péchés sont expiés et que nous avons été réconciliés avec Dieu et que sa vie est revenue à nous, sur nous, à nous, alors il faut que cela soit possible maintenant de vivre la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Alors il faut que ce soit possible par la vie du Seigneur d'agir et de se conduire dans le cadre des Saintes Écritures. Alors il faut que la vie de Jésus-Christ puisse être en nous. Il doit pouvoir vivre par sa vie par nous. Alors ce sera la pratique de la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne nourriras pas de haine dans ton cœur pour ton frère. Le verset 17, nous avons les apôtres aussi, Jean, dans ce cas, qui, n'est-ce pas, ont dans leurs épîtres employé et inclus ces écrits de l'Ancien Testament. Ils pouvaient dire, comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu n'aimes pas ton frère que tu peux voir, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et ici, la récepte nous est déjà donnée dans l'Ancien Testament. Elle n'est plus affligeante. Ce n'est plus un fardeau. Les rachetés sont les seuls qui peuvent mettre la parole en pratique, qui peuvent la vivre. Les autres la ressentent comme un fardeau lourd, quelque chose qui afflige, qui écrase presque. Mais celui qui est racheté, qui est délivré, celui qui est racheté, qui est affranchi, il accomplira la parole de Dieu, il la mettra en pratique avec joie, sans propres efforts. Pas de sa propre force, mais dans la puissance du Seigneur. Car sa vie est en nous. Alors, repartons à la loi royale, à la loi de la liberté et au sacerdoce royal. Exode 19, verset 3. Ici, il est écrit, alors que Moïse montait vers Dieu, l'Éternel lui cria du haut de la montagne ses paroles. Est-ce que vous remarquez? Ici, deux choses sont mentionnées, Dieu et l'Éternel. Dieu et le Seigneur. Alors que Moïse montait vers Dieu, l'Éternel lui cria du haut de la montagne ses paroles. Tu parleras ainsi à la montagne de Jacob, à la maison, pardon, de Jacob, et tu annonceras aux enfants d'Israël. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et comment je vous ai amené ici auprès de moi. Parce que justement, je viens de lire ce verset, je dois presque sourire. Vous vous rappelez tous à la prédication de frère Branham avec le titre « Les aigles de Dieu ». Et dans la dernière édition du magazine L'Étoile, j'ai lu que jusqu'à maintenant, les hommes n'ont pas constaté que cette parole est vraie. Que l'aigle prend ses enfants sur ses ailes pour ainsi les faire sortir du nid. Jusqu'à maintenant, cela a été discuté. Mais maintenant, aussi les scientifiques, eux, ont avoué que c'est vrai. On constate que nous n'avons pas besoin de scientifiques pour croire cela. Ce que Dieu dit est toujours vrai. Il était grand temps que les scientifiques se corrigent en toutes choses. Si cela arriverait encore, nous remercierons Dieu pour cela. Nous n'avons rien contre les scientifiques, nous avons seulement quelque chose contre la science qui les égare. Chaque science qui conduit à côté de Dieu et détourne de Dieu et éloigne de Dieu et contredit Dieu et sa parole et de Satan. Nous n'avons pas besoin de discuter là-dessus. Donc revenons à cette parole. Mais je dois quand même souligner cela. que Frère Branham, autrefois réellement, disait qu'il l'avait regardé avec ses jumelles, qu'il l'observait, il voyait. Ouais, il avait vu, il avait regardé. Là où les scientifiques ne vont pas, là-bas, cet homme de Dieu était à la maison dans le désert, là où il pouvait observer la nature librement. Il a dit qu'il avait vu ça. Et ici, il y a quelque chose de particulier qui est exprimé. Au verset 4, vous avez vu vous-même, ici il est écrit, ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et comment je vous ai amené ici auprès de moi. Pas seulement sur une montagne, pas seulement sur un rassemblement avec un prophète, mais auprès de moi ici. Dieu ne nous amène pas quelque part, de quelconque. Il nous amène là où il est, lui-même. Il nous amène à lui. Nous n'aurons pas de repos jusqu'à qu'il ait pu nous amener là où il est. Et ça, c'est dans sa directe présence. Pas sur une sainte montagne, mais sur le Saint Dieu, sur la sainte montagne. À lui-même, dans sa présence. Alors là, nous sommes là où Dieu veut nous avoir. Portés sur des ailes d'aigle, verset 4, il relit. Et comment je vous ai amené ici auprès de moi. Amen. Ici auprès de moi. Pas à un endroit, mais à moi. Amené ici auprès de moi, à moi. L'appel que le Seigneur a exprimé était très personnel. Venez, viens et suis-moi. Venez et suivez-moi. Les Grecs voulaient voir Jésus. Il ne s'agit pas seulement de ça. Un peu d'aller dans une ville, dans une église, dans un endroit, mais de ne pas abandonner et se reposer jusqu'à que nous soyons venus au Seigneur lui-même et que nous puissions l'entendre nous parler et agir en nous et parmi nous. Maintenant le verset 5, dans Exode, chapitre 19, verset 5. Et maintenant, si vous obéissez de bon cœur à mes instructions et si vous gardez mon alliance, vous serez ma propriété particulière parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et un peuple saint. Si nous trouvons presque les mêmes paroles et rencontrons presque les mêmes paroles dans le Nouveau Testament, cela a été de nouveau retenu dans l'histoire du salut. Parce que en Israël, Dieu, par des images, a montré ce qu'il ferait avec l'Église. Il relit la deuxième partie du verset 5. Vous serez ma propriété particulière parmi tous les peuples. La deuxième partie du verset 5. Car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume. Pas seulement un royaume, mais pour moi. Pas seulement un royaume. Pas seulement vous serez un royaume, mais vous serez pour moi, un royaume. Et il a dit, je vous ai apporté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené ici auprès de moi, je relis encore une fois. Et maintenant, si vous obéissez de bon cœur à mes instructions, et si vous gardez mon alliance, pas seulement une alliance, mais mon alliance, vous serez ma propriété. Ma propriété. Particulièrement, ma propriété particulière, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient, mais vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et un peuple saint. Tout lui, nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété, pas plus à nous-mêmes, pas à nous-mêmes. Celui qui connaît les Écritures le sait. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous puissions vivre ou bien mourir, nous sommes la propriété du Seigneur. Nous lui appartenons. Vous serez ma propriété particulière. Ma propriété. Pas propriété parmi tous les peuples et les nations. Dans Deutéronome, je me suis noté un verset. Je ne sais plus si je l'ai bien noté. Plus on vieillit, plus on prend de l'âge et plus on perd un peu la mémoire. Oui. Deutéronome, chapitre 1, verset 29. Je vous ai dit, ne vous découragez pas et ne craignez pas devant eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, comme il vous a visiblement aidé en Égypte. Il combattra pour nous. Pas toi, pas moi. Il combattra pour nous. Nous mettons notre confiance entièrement en lui, au verset 32. Mais malgré tout cela, vous êtes resté sans confiance en l'Éternel votre Dieu, qui pourtant marchait devant vous sur le chemin pour vous trouver un endroit où dresser votre camp. Vous êtes resté sans confiance en l'Éternel votre Dieu. Dans quel état est ta confiance et ma confiance aujourd'hui en Dieu? Dans quel état est ma foi, ta foi en Dieu et à la parole de Dieu? Durant toutes ces années de croyants, de foi, dans quel état est notre confiance en celui qui nous enseigne, qui nous instruit et qui nous a parlé et qui nous a révélé sa parole d'une manière si merveilleuse? Je lis dans Jacques pour vous montrer pourquoi est-ce que... Non, je voulais dire Hébreux maintenant. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Je dois, à cause du contexte, lire derrière le premier verset. Hébreux chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, puisque la promesse d'entrer dans son royaume, dans son repos, n'a pas encore été accomplie, veillons avec soin et peur à ce qu'aucun de vous ne se trouve être resté. Quelque chose de plus grave ne peut pas arriver à un croyant que il doit être constaté qu'il est ou bien qu'elle est restée quand le Seigneur revient pour prendre les siens auprès de lui dans la gloire. Qu'aucun de vous ne se trouve être resté. Pour ceux qui seront restés, ce ne sera pas agréable du tout. Ça, nous le savons tous. Mais pour moi, il s'agit maintenant du deuxième verset dans la chose principale. Car le message du salut nous a été adressé aussi bien qu'à eux. Mais à ceux-là, la parole qu'ils ont entendue n'a servi de rien, parce qu'elle n'était pas unie à la foi chez ceux qui l'ont entendue. D'écouter la parole de Dieu sans la croire ne sert à rien, ne sert à personne. Mais je ne crois pas que Dieu nous ait donné deux oreilles pour que ce que nous écoutons entre dans une et sort dans l'autre. Ça, je ne le crois pas. Je crois que Dieu nous a donné une oreille spirituelle. Mais seulement là où la parole divine, le message divin sont unis à la foi, sont écoutés dans la foi, sont reçus dans la foi, trouvent la foi en nous, que avec la certitude que ici c'est Dieu qui parle avec moi. Je ne suis pas venu ici à une association quelconque ou bien ici je me tiens dans la présence de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, je vous ai amené auprès de moi ici, en cet endroit. Auprès de moi, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Vous serez à moi un peuple saint. Pour moi, un peuple saint. Un royaume des sacrificateurs. Ils ont écouté le message du salut, l'évangile. Ça veut dire joyeux message. Exactement comme nous, ils l'ont écouté. Mais la parole, je relis la deuxième partie du verset 2 d'Hébreux 4. Mais À cela, la parole qu'ils ont entendue n'a servi de rien. Nous pouvons écouter Dieu lui-même nous parler sur la montagne de Sinaï et peut même aller à la montagne des Oliviers et là-bas, personnellement, écouter notre Seigneur nous parler. Mais si ce qu'on écoute n'est pas uni à la foi et que la foi n'est pas unie à l'obéissance de la parole, alors tout cela ne nous sert à rien, ne nous sert de rien. Nous repartons, ce aurait été mieux de ne pas avoir écouté et entendu et de ne pas avoir vu si nous ne sommes pas prêts à mettre en pratique ce que nous avons écouté, à obéir. Mais à cela, la parole qu'ils ont entendue n'a servi de rien. Mais c'était Dieu le Seigneur lui-même qui avait parlé. Hein. Si c'était un évangéliste qui avait été envoyé, alors on pourrait dire, bon, il n'a pas assez prêché puissamment, il n'était pas assez lié avec Dieu. On pourrait chercher des prétextes pour, n'est-ce pas? Mais ici, c'était le Seigneur Dieu lui-même qui avait placé son peuple dans sa présence et qui avait parlé avec eux, qui les avait amenés auprès de lui. Et pendant 40 ans, et il était avec eux. Et il a dû dire encore qu'ils n'ont pas connu ses voix. Ils ont écouté la parole, mais ils n'ont pas uni à la foi. Et c'est peut-être raison que même la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, qui leur a été adressée, ne leur a servi de rien. Et maintenant, l'explication, parce qu'elle n'était pas unie à la foi chez ceux qui l'ont entendue. Qu'est-ce que c'est que la foi? Hébreux 11. La parole n'a pas trouvé en eux la foi. Et Hébreux 11, verset 1, nous dit clairement ce que c'est que la foi. Mais la foi est la réelle présence de la substance des choses qu'on espère. Une ferme conviction démontrée des faits qu'on ne voit pas encore. Dans quel état est notre foi? Est-ce que c'est comme ça avec nous ici? Est-ce que la parole peut trouver ça en nous? Nous attendons des choses qui ne sont pas encore à voir. Tout un nombre de choses, mais que Dieu a promises, qui ne sont pas encore visibles. Et ici, il nous est dit, mais la foi est la réelle présence de la substance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Qu'est-ce que nous espérons? Pas ce que nous aimerons bien voir, mais les promesses que Dieu nous a données. Une ferme conviction démontrée des faits qu'on ne voit pas encore. Ici, c'est écrit des faits qu'on ne voit pas encore. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est déjà un fait. Même si ce n'est pas encore devenu visible, aux yeux de Dieu, tout est déjà une réalité. Des réalités qu'on ne voit pas encore. Il y a encore beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui doivent encore s'accomplir jusqu'à la résurrection des morts, le changement de ceux qui sont restés vivants en Christ et l'enlèvement, etc. Pas seulement ça, mais il y a aussi d'autres choses qui doivent aussi s'accomplir. Mais les hommes de Dieu, par exemple Jean, sur l'île de Patmos, voyaient déjà l'accomplissement, l'achèvement de la troupe rachetée. Il entendait déjà l'Alléluia au festin des noces de l'agneau. Et il écoutait une voix qui a dit, béni et saints sont ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Il écoutait déjà le cantique de la troupe rachetée, achevé. Et nous attendons encore maintenant l'achèvement. Mais Jean l'a déjà vu achevé. Jean a déjà vu la nouvelle Jérusalem. Il a déjà vu la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Mais nous l'attendons encore maintenant. Mais lui, il a déjà vu. Qu'est-ce que c'était? Que ce soit les prophètes ou bien les apôtres. Tous les hommes qui avaient reçu la grâce de Dieu écoutaient sa parole dans la foi. Avec l'esprit spirituel, ils ont déjà vu en esprit ce qu'ils écoutaient. Ils ont déjà dit oui à Dieu. Ils ont déjà, de tout leur cœur, dit amen à ce que Dieu leur avait promis dans sa parole, promis à son peuple. Et c'est comme ça que, à ce verset ici, nous l'avons bien compris, dans Hébreux 11, verset 1. Mais la foi est la réelle présence de la substance des choses qu'on espère. Pas seulement dans notre langue, aussi dans d'autres langues, ils disent, oh oui, je crois. Je crois qu'il va pleuvoir, je crois qu'il va pleuvoir, je crois que, on dit tout, je crois. Les gens utilisent ça comme ça. Non, ici, la foi est quelque chose d'autre. Ici, il s'agit de la foi en Dieu et à sa parole. Mais la foi est la réelle présence de la substance des choses qu'on espère. La réelle présence de la substance des choses qu'on espère. Une ferme conviction. Démontrer des faits, des réalités qu'on ne voit pas, mais qu'il a promis. Amen. Et c'est en cela qu'est cachée toute la chose. Partout où Dieu a donné des promesses, là, la foi était ancrée. Là, la foi peut s'ancrer dans les promesses de Dieu. Et là, elle ne peut pas être ébranlée et remuée. Parce que l'ancre va jusqu'à derrière le rideau. Et derrière le rideau, il y a l'arche de l'alliance avec la parole de Dieu en elle. Donc, il n'y a pas, rien ne peut être remué. C'est ferme. Mais continuons à lire dans Hébreux 7 maintenant. Dans Hébreux 7, verset 6. Ici, la chose suivante est écrite. Mais celui-là, bien qu'il n'ait aucun lien de filiation avec eux, a prélevé la dîme sur Abraham et a béni celui qui était en possession des promesses. Vous savez, Hébreux 7 en relation avec Genèse 14, verset 7, alors que le Seigneur, le roi de Salem, vint et rencontrait Abraham avec du pain et du vin pour tenir avec lui le souper. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Qui a été béni? Béni a été celui qui était en possession des promesses, sinon personne d'autre. Qui veut être béni aujourd'hui? Seulement celui qui est en possession des promesses divines pour ce temps. Tous les autres prêchent, prient et chantent à côté de Dieu. Vous dites que cela est vraiment ainsi? Vous pouvez le lire. Moi-même, je remue les épaules. Je ne me sens pas bien à cette pensée. J'aurais préféré que ce soit le contraire qui serait vrai. Oh, comme nous nous réjouirions. C'est toutes les églises et les communautés, et particulièrement tous ceux qui ont bu de la coupe de la bénédiction et ont expérimenté Dieu, si eux aussi le reconnaissaient, ce que Dieu a promis pour ces jours et ce qu'il fait maintenant. Mais s'ils ne le font pas, où reste alors leur ancre? Où reste la bénédiction? Je relis encore une fois. Mais celui-là, bien qu'il n'ait aucun lien de filiation avec eux, a prélevé la dîme sur Abraham et a béni celui qui était en possession des promesses. Or, il est absolument incontestable que ce qui est inférieur est béni par celui qui est supérieur. Amen. Qu'est-ce que Melchisédek a dit à Abraham? Béni sois-tu de la part du Dieu Tout-Puissant. Là, ce n'est pas l'inférieur qui a béni le supérieur, mais le supérieur, le très haut, a béni son prophète Abraham. Le très haut, l'éternel Dieu lui-même. Mais il fallait, parce qu'il s'agissait, n'est-ce pas, de relever la dîme, il devait venir à Abraham comme sacrificateur, parce que plus tard, ce sont les sacrificateurs qui ont reçu la dîme. Mais combien de fois Dieu l'Éternel a joué des rôles, et cela à cause de nous. Mais tous ces différents rôles-là doivent être laissés dans leurs différents contextes, là où ils appartiennent d'être, d'exister. De ce Melchisédek, il est écrit qu'il est roi de justice, roi de Salem, roi de paix. Il n'a pas de père, pas de mère, pas de généalogie, ni commencement, ni fin. Alors, c'était l'Éternel dans son corps spirituel avant que la parole devienne chair et prenne une forme humaine. Vous pouvez vous-même le lire. Pour nous, il s'agit encore d'autres versets bibliques. Le psaume 110. Psaume 110. Et vous allez tout de suite voir et comprendre pourquoi est-ce que nous lisons ces écritures, ces versets bibliques. Lui le roi, lui le souverain sacrificateur, lui le sacrificateur, il a un peuple de rois et de sacrificateurs qu'il a appelé à sa suite. Nous avons la grâce de nous compter à ce nombre. Psaume 110, je lis le verset 4. En fait, on devrait, à cause du contexte, lire dès le début. L'Éternel a juré et il ne se repentira pas. Tu seras sacrificateur éternellement à la manière de Melchisédek. Il ne pouvait pas l'être selon la manière d'Aaron, parce que là, il y avait la mortalité. Il fallait qu'il le soit selon la manière de Melchisédek. Pour pouvoir l'être sans dérangement, sans empêchement, sans interruption, du commencement jusqu'à la fin. Oh, comme d'une manière merveilleuse, Dieu a laissé écrire toutes ces choses à l'avance. Je lis le psaume 110 dès le premier verset. C'est David, un psaume. Ainsi parle l'Éternel à mon Seigneur. Et ça, je l'ai lu aussi aujourd'hui. Il y a un Seigneur qui demandait comment est-ce que David peut l'appeler Seigneur s'il est son fils. Et déjà, les gens ne pouvaient pas lui répondre. Il est tout. Il est Seigneur, il est roi, il est sauveur, il est fils. Il est tout dans les différents contextes dans lesquels cela a sa place. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied pour tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton sceptre puissant. Ici, ça devait être écrit Yahvé. Il devait être écrit ici Yahvé étendra de Sion ton sceptre puissant. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera plein de vigueur au jour de ton armée. En parure sainte, comme du sein de l'aurore, la rosée viendra à toi, ta jeune équipe. Dans le jour que Dieu a fait pour, avec nous, faire la dernière action, tous nous serons pleins de vigueur. Il n'y aura personne qui boitera, il n'y aura personne qui sera infirme, il n'y aura personne qui restera en arrière. Nous serons pleins de vigueur au jour de son armée, l'armée de notre Dieu. Et si cela ne nous réussirait pas, Dieu devra nous aider. C'est écrit. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, dans un entretien téléphonique, « Oui, mes frères Franck, je ne serai pas prêt. » Je lui ai dit « Non, justement toi, tu seras prêt. Tu seras là. » Moi, j'aime pas contredire, mais le diable toujours. Je contredis toujours le diable. Ça, nous devons nous habituer à faire ça. À contredire le diable et à croire Dieu. Dans les jours de Moïse, alors que le pharaon disait oui, allez adorer, mais que votre bétail reste ici. Une négociation. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Il y a un ordre. Laisse sortir mon peuple et c'est fini. On ne négocie pas. Et alors Moïse a dit pas un seul. Rien que nous appartient restera ici. Tout, nous sortons tel que l'Éternel nous l'a ordonné. Pas comme tu veux. Parfois, nous nous sentons misérables. Mais justement, ça nous prouve comment est-ce que la grâce de Dieu est grande dans notre vie. Si quelqu'un marchait avec le nez élevé, il n'aurait même pas de chance. Si ce n'est qu'il s'humilierait. Il s'humilierait sous la main puissante de Dieu. Et résisterait au diable. Et c'est ainsi que il pourra se laisser insérer par Dieu et classer par Dieu. Alors, ton peuple sera plein de vigueur au jour de ton armée. Ça, je le crois de tout mon cœur. Nous voulons maintenant aller aux épîtres de Pierre et lire ce que Pierre ici a écrit autrefois, a dit autrefois. 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Peut-être déjà, dès le verset 7, ces paroles sont toutes si précieuses. On devrait lire plus. 1 Pierre, chapitre 2, dès le verset 7. C'est donc à vous qui possédez la confiance ou bien alors la foi. Vous voyez, est-ce que vous voyez de quoi il s'agit ici? Une ferme assurance, une conviction des choses que Dieu a promises, comme si elles existaient déjà. Une conviction des faits réels divins. Souvent, nous les avons dit. Nous l'avons dit, nous ne pouvons pas croire des hommes. Mais nous ne pouvons même pas croire en nous-mêmes. Ou bien alors nous faire confiance. Mais nous pouvons faire confiance à Dieu. Et nous pouvons croire Dieu. C'est donc à vous qui possédez la confiance qu'est donné le bien précieux. Pensez à cela, le bien précieux. Abraham a été béni parce qu'il était en position des promesses divines. Dieu avait parlé avec lui. Dieu lui avait donné des promesses et il croyait Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Qu'est-ce qui te sera imputé à justice, à toi et à moi? Qu'est-ce qui nous sera, si nous croyons Dieu? Si tu crois que ce qu'il a dit est vrai et tu t'attends à ce que cela arrive tel que Dieu l'a prononcé et que rien ne peut changer, rien ne peut changer, rien ne peut empêcher cela non plus. Que ça s'accomplisse. Cela doit s'accomplir parce que la bouche du Seigneur l'a prononcé. C'est donc à vous qui possédez la confiance. Est-ce que nous la possédons tous? La confiance. Une ferme assurance. Pas que nous soyons convaincus de toi, bien de non, non. Convaincus de ce que Dieu est fidèle. Et qu'on est fidèle et qu'il Il tient sa parole, telle qu'elle est écrite. Les Écritures ne peuvent pas être annulées. Elles ne seront pas annulées non plus. Elles seront retenues et elles seront accomplies. Elles vont s'accomplir. Pour les incroyants, pour les incrédules, ils continuent à lire le verset 7. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Et donc, pierre d'achoppement et rocher de scandale. Ils trébuchent sur lui dans leur désobéissance contre la parole. Là où vous remarquez? Désobéissance contre la parole. La foi et l'obéissance vont ensemble. Et l'incrédulité et la désobéissance forment de nouveau un couple. Et les gens qui portent en eux de l'incrédulité ne peuvent pas être obéissants. Il n'y a pas de liaison, de relation là. Bien au contraire. En eux, il y a la rébellion, il y a la résistance, il y a la séparation. La séparation est là, dans leur cœur. La foi nous unit avec Dieu. L'incrédulité nous sépare de Dieu. L'incrédulité et la désobéissance vont ensemble. Et l'obéissance et la foi vont ensemble aussi. Et ici, des gens trébuchent sur lui dans leur désobéissance contre la parole. Combien veulent et ne le peuvent pas. Ça en a au moins l'air. Que Dieu soit seul juge. Dieu accorde les deux. Il accorde le vouloir et le faire. Celui qui aujourd'hui trébuche, se heurte, il trébuche de nouveau dans l'incrédulité, dans la désobéissance à la parole. J'ai déjà dit ici, en ce qui concerne le ministère de Frère Branham, tous ceux qui ont déjà été dans l'une de ces réunions l'estiment. Et là, ce sont des millions sans compter. Il estime comme le plus grand des hommes de Dieu depuis le jour de la Bible. Depuis le jour de la Bible. Et là, aucun n'a un problème. Aucun de ces grands évangélistes et de ces grands prédicateurs vus, connus internationalement, qu'ils ôteraient leur chapeau, qu'ils le disent ou qu'ils le pensent, en tous les cas, ils sont de cette version-là, en général, que parmi nous, sur Terre, un homme a vécu qui était unique. Donc, toute sa vie était une prédication. Quand il parlait de l'humilité, il était l'humilité en personne. Quand il parlait de l'amour, il avait l'amour. Les choses qu'il prêchait, il les avait. il est vivait. Et même ses ennemis lui ont rendu ce témoignage. Et cela veut dire beaucoup. Mais dites à ces amis-là qui parlent de ces choses avec beaucoup d'enthousiasme, comment est-ce que Dieu pouvait utiliser cet homme humble? Mais là, les Écritures se sont accomplies. Dites à ces amis-là que les Écritures se sont accomplies. N'est-ce pas? Qu'ils reconnaissent que Dieu l'a utilisé. Alors, la page change. Au moment où ils sont pris dans un engagement, où les choses deviennent contraignantes et sont placées comme un fondement. Alors là, ils dévient. Ils sont plus prêts à écouter. Ils veulent avouer et ils le font aussi que Dieu a fait de grandes choses. Mais que là, il s'agit de l'accomplissement des Écritures dans notre temps. Et des prophéties qui s'accomplissent, qui se sont accomplies parmi nous, au milieu de nous. Ça, ils ne peuvent pas l'avaler. Avec nous, parmi nous, c'est justement le contraire. Pas si quelqu'un ressuscite les morts, ou bien que les aveugles voient et que les paralytiques marchent. Gloire à Dieu, nous aimerons bien que cela se passe parmi nous aussi, que cela ait lieu très bientôt. Mais si la parole n'était pas prêchée et que les promesses de Dieu n'étaient pas exposées à l'Église pour les promesses pour notre temps, à quoi est-ce que ça c'est vrai? Que même un mort ressuscite. Si ceux qui sont vivants sont maintenus dans la mort spirituelle, non. Tout doit être ordonné à sa place. Les choses doivent être ordonnées à leur place. Dans notre temps, Dieu a et Dieu continuera à faire l'histoire du salut. Et rien ne m'enthousiasme plus que ça, que de voir les traces des promesses bibliques, des promesses divines dans les Écritures et observer leur accomplissement et pouvoir suivre leur accomplissement et voir comment ce qui a été promis s'est accompli. Et ça, c'est la preuve convaincante, pas un homme qui interprète, mais des hommes à qui Dieu a accordé la grâce de reconnaître dans leur temps ce qu'il fait dans leur temps en accord avec sa parole. Et c'est cette grâce justement qui nous a été accordée. Pas parce que nous l'aurions cherché, non. Elle nous a été simplement accordée. C'est simplement tombé sur nos genoux. Comme il est écrit, celui à qui je fais grâce, je lui fais grâce. Celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. Donc à vous, qui possédez la confiance, il relit le verset 7 de 1 Pierre 2. C'est à vous qu'est donné le bien précieux, la foi à accès à Dieu. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de comprendre sa parole. Vous pouvez aller dans Hébreux, chapitre 11, dans ce chapitre unique de la foi, extraordinaire de la foi, vous pouvez le lire dans tout le chapitre. Il s'agit toujours de la foi, toujours de la foi. La foi dans le cœur, dans la vie de ces hommes. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 2 maintenant. C'est en effet en possession d'une telle foi. Quelle foi? Comme c'est écrit au verset 1. Comme elle a été décrite au verset 1. Mais la foi est la réelle présence de la substance des choses qu'on espère. La substance des choses que Dieu a promises, mais que nous ne voyons pas encore avec nos yeux, mais que nous espérons fermement et aussi une ferme conviction. Démontrer des faits réels qu'on ne voit pas encore. Une conviction démontrée. Il y a aussi cette parole qu'il regardait à lui, regardait à lui comme s'il le voyait, à l'invisible. Et Abraham n'a pas regardé à l'état du corps de sa femme, mais il a regardé au Dieu vivant qui lui avait donné les promesses. C'est en effet en possession d'une telle foi que les anciens ont obtenu de Dieu le témoignage honorable. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été appelé à l'existence par la parole de Dieu. Oui, qui reconnaît cela par la foi? Très clairement, la parole parlée. Dieu a dit et les choses sont arrivées. Il a ordonné et elles ont existé. On peut aller dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau. Le même Dieu, de la même manière, a parlé et a agi. Qui comprend cela? Les scientifiques cherchent leur explication. Et ceux qui prêchent mais qui ne peuvent pas croire, qui ne peuvent pas croire, sont dans la discorde. Mais ensuite, il y en a ceux qui ne peuvent rien faire d'autre que de croire de tout leur cœur. Et à cela, nous avons la grâce de compter à ce nombre. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été appelé à l'existence par la parole de Dieu. Verset 3. Par quelle foi? En ce que nous croyons, ce qui est écrit dans Jean 1, dans Genèse 1, verset 1. Dieu a dit que la lumière soit la lumière fut. Dieu a créé les cieux et la terre. Ça, moi, je le crois. Je le crois à 100%. Il a eu seulement besoin de parler et tout a existé. Il y a eu beaucoup de critiques jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ne croient pas. Et il y en a qui ont inventé plusieurs thèses. Comment ça aurait pu se passer. Le Big Bang, etc. Une explosion. Mais non. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui aurait pu dire. Oui, moi je le sais et je le suis. Donc il n'y en a qu'un seul qui, comme créateur du ciel et de la terre, est connu. Sinon personne d'autre. C'est par la foi que nous avons accès à Dieu lui-même, à sa parole, à ce qu'il fait, que ce soit création, des rédemptions. Celui qui ne peut pas croire, il ne croit pas une chose, il ne croit pas non plus l'autre. Celui qui croit, il croit tout. Il croit tout, de A à Z. Sans effort, parce que la foi est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. En sorte que ce qui est maintenant visible n'a pas été fait de ce qui est perceptible par les sens. Du néant, Dieu a appelé tout cela à l'existence. Il n'y avait rien. S'il y avait eu quelque chose qui existait déjà, alors, mais il n'y avait rien. Du néant, et ça je vais aussi vous le lire. Il a lu la deuxième partie du verset 3 d'Hébreux 11 pour que vous puissiez savoir que cela a été créé. Ou bien alors, ici déjà dans Hébreux chapitre 1, peut-être le verset 3. Celui-ci est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il porte l'univers par sa parole toute puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de sa majesté dans les hauteurs du ciel. Qui est? C'est lui et le même qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Avec la différence, c'est que dans l'Ancien Testament, il était dans un corps spirituel et dans le Nouveau Testament, il est devenu homme dans un corps de chair. Je lis le verset 4 dans Hébreux 11 maintenant. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus précieux que celui de Caïn. Et c'est par la foi qu'il a reçu le témoignage qu'il était un homme juste, en ce que Dieu a rendu témoignage à ses offrandes. De nouveau, la foi. Qu'est-ce que c'était? La foi était en même temps une révélation. La révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Si un homme dit « je crois » et qu'il parle même de révélation, mais que sa révélation est à l'extérieur du cadre de la parole de Dieu, alors on peut l'oublier. La révélation qui vient de Dieu vient par l'Esprit et l'Esprit conduit à la parole et nous révèle la volonté de Dieu par la parole de Dieu. Et ici, à Abel, alors qu'il n'y avait même pas encore de parole de Dieu écrite, il lui a été révélé ce qu'il devait faire, ce qui devait arriver. Et c'est ainsi qu'il a offert un sacrifice plus précieux que celui de Caïn. Et il a été désigné de Dieu juste, justifié devant le Dieu vivant. Ici, il est écrit. Et c'est par la foi qu'il parle encore maintenant après sa mort. Il y a aussi encore aujourd'hui des hommes. Il y a aujourd'hui encore des hommes qui ont compris ce que c'est que la révélation et ce que c'est que la foi. Jésus-Christ est la révélation de Dieu en forme humaine. Pas une idée, mais comme l'a dit les Écritures, Il est la manifestation de Dieu et la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Il est la manifestation de Dieu. Pas à côté de la parole, mais Dieu lui-même a pris forme dans un corps de chair. C'est ainsi que toute révélation de Dieu qui vient de Dieu est avec la foi qui est ancrée en Dieu et sa parole. Pas une explication, mais une substance divine. Et pour cela, nous pouvons aussi être reconnaissants de ce que le Seigneur nous a conservé dans sa parole. Et encore plus que ça. Et nous, donc sa parole dans le déroulement du temps est devenue encore plus précieuse pour nous, plus sérieuse, plus importante pour nous. Partout où nous pourrions lire dans la Bible, Dieu nous parle par sa parole. Encore aujourd'hui, la parole nous parle, elle est vivante pour nous. Il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch. Donc tous ces hommes au verset 6, 5, ils avaient la foi. Revenons pour finir à ce que nous voulions en fait exposer ce soir. Une descendance royale, un sacerdoce saint, un saint sacerdoce, que le Seigneur, comme le roi des rois, comme le souverain sacrificateur, qui lui-même s'est offert comme agneau du sacrifice, et ça peut-être personne ne peut l'expliquer, comment il peut être les deux en même temps. Le sacrifice, l'agneau, et en même temps le souverain sacrificateur, le médiateur et l'avocat, il peut être tout. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, tout. Partout où, là, chaque chose où ça a sa place. Ici, nous lisons de nouveau dans 1 Pierre chapitre 2. Dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, par contre, vous êtes la descendance élue. Autrefois, c'était Israël. Élu de tous les peuples, les langues, les nations, Dieu a fait une alliance avec son peuple. Il l'a porté, n'est-ce pas? Sur des ailes d'aigle pour l'amener là dans sa présence pour parler avec lui. Aucun autre peuple a expérimenté Dieu comme le peuple d'Israël. Et ici, il nous a dit, vous, par contre, vous êtes la descendance élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple choisi pour lui appartenir. Qu'est-ce que nous devons dire alors? Dieu nous a apporté dans sa présence, auprès de lui, nous a amené auprès de lui. C'est lui qui parle avec nous. Le dernier dimanche, nous avons lu la parole de 1 Samuel 3, où le Seigneur avait appelé le jeune Samuel, et Samuel allait toujours à Élie, et disait, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie disait, « Non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. » Et de nouveau, le Seigneur l'appelle, et Élie va à Élie, il dit, tu m'as appelé, me voici. Il était étonné. Et il était déjà presque aveugle. Élie. Et il disait, mais va te recoucher. Je t'ai pas appelé. Et vous savez ce qui s'est passé alors? Alors Élie a compris que c'était le Seigneur qui appelle ce jeune Samuel. Il lui a dit, si la voix retentit encore, alors dis, parle Seigneur, ton esclave serviteur écoute. Qu'est-ce que c'était? Souvent les hommes ne comprennent pas que c'est le Seigneur qui parle avec nous. Ils vont là, ils demandent à des hommes, ils posent des questions ici et là. Et déjà on les calme, au calme. La chose est en ordre, les choses sont en ordre. Et ça suit son chemin, non, c'est pas en ordre. Les choses sont seulement en ordre. Quand ils ont été apportés en accord, en ordre avec Dieu. Et c'est seulement quand nous sommes en accord avec Dieu, en conformité avec Dieu et sa parole. Et c'est seulement après qu'il ait parlé avec nous que cela sera possible. Samuel se couchait dans la maison de Dieu. Et pas loin de l'arche de l'Alliance. On peut être croyant. On peut être si proche de la parole. Très proche, très proche. Et malgré tout, ils n'ont pas encore compris que l'heure de se réveiller en fin de sommeil est maintenant là et que l'enlèvement est plus près de nous que lorsque nous avons cru et nous écoutions toutes ces choses que nous savons aujourd'hui, nous les avons entendues dans le déroulement des années et elles sont devenues une certitude pour nous, que nous puissions prendre cela à cœur. Le Seigneur a un peuple dans l'Ancien Testament. Il a dit, vous êtes pour moi un royaume de sacrificateurs. un peuple mis à part pour lui appartenir de tous les peuples. Je vous ai choisi. J'ai fait une alliance avec vous. Vous êtes mon peuple. Je vous ai amené auprès de moi ici, de ma présence. Ils étaient ici rassemblés devant moi. Vous écoutez ma parole. Dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose. Une église mise à part pour lui appartenir de tous les peuples, les langues et les nations. Une sainte alliance faite. Ceci est la nouvelle alliance de mon sang. Il y a une troupe rachetée par le sang. Et cette troupe rachetée par le sang forme cette descendance élue, le sacerdoce royal, la nation sainte. Autrefois, le peuple choisi. Autrefois, c'était Israël. Aujourd'hui, nous le sommes. Pour lui appartenir, mis à part. Dans quel état sommes-nous? Qu'est-ce qui en est de la relation avec le Seigneur et avec tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu? Vous êtes la descendance élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple choisi pour lui appartenir. Il relit le verset 9 de 1 Pierre 2. Et vous devez proclamer les vertus et les œuvres glorieuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez auparavant un non-peuple, verset 10, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, autrefois sans la miséricorde de Dieu, mais maintenant riche de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que nous devons dire à cela ici? Nous devons dire merci au Seigneur, lui rendre grâce, lui qui a fait de grandes choses à nous, qui nous a choisis pour cela, sans nous poser la question auparavant. Il nous a déterminés à servir à la gloire de sa grâce et de son nom. Nous voulons l'accepter dans la foi, comme nous l'avons entendu, avec une ferme conviction que chaque parole de Dieu que nous écoutons ne passe pas à côté de nous, mais qu'elle va profondément dans notre cœur, pénètre dans notre cœur, que nous devenons un avec la parole et que la parole puisse devenir chère par nous, en nous, et devenir ainsi une réalité en nous, par nous, à travers de nous. Vous qui étiez auparavant un non-peuple, verset 10, mais qui êtes maintenant le peuple, pas seulement un peuple, mais le peuple de Dieu, autrefois, sans la miséricorde de Dieu, mais maintenant riche de la miséricorde de Dieu. Et pour cela aussi, nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. Et encore, je veux souligner quelque chose dans la partie de ce verset. Verset 9. Et vous devez proclamer les vertus et les œuvres glorieuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Notre Seigneur dit, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres ou ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il pouvait le dire. Je suis la lumière du monde. Jean dit, j'ai été envoyé pour un témoignage à la lumière. Celui qui le suit aussi dans ce temps ne restera pas dans les ténèbres aussi dans ce temps d'aujourd'hui, mais il aura la lumière de la vie. Croyez-vous cela tous? Quand on suit Christ, tout cela est inclus dans la vie d'un disciple. Cela appartient à cela. Croyez, celui qui est la parole devenue chair et quelqu'un le suivrait et ensuite s'égarer. C'est impossible. Comment on peut suivre celui qui a la parole devenue chair et s'égarer? Sans lui, nous nous égarons, bien sûr. Mais avec lui, nous avons trouvé la maison. Nous avons été ramenés sur le droit chemin. Et nous pouvons marcher sur son chemin. Il a dit, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres. C'est pas possible, mais il aura la lumière de la vie. Quoi que ce soit, Dieu t'accordera la réponse. Il t'accordera la clarté parce que tu le suis. C'est pas possible de suivre le Seigneur et de rester dans l'incertitude, dans l'obscurité. Celui qui le suit ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que cela puisse briller fort pour que nous puissions tous voir et marcher dans cette lumière jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous pour adorer. Peut-être que nous chantons encore ce chœur. Tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis, sans rien de moi. Ton sang me lave de tout péché, ô agneau de Dieu. Je viens. Je viens. Je viens. Nous couvrons les têtes ou nous fermons les yeux, ouvrons les cœurs. Peut-être qu'il y en a quelques-uns ici qui ont une requête particulière dans leur cœur. Dieu le sait. Il le sait. Si de cette prédication la foi a survenu dans vos cœurs et si ce que Dieu a promis, nous pouvons le prendre pour nous dans la conviction que cela est déjà là, quoique nous ne l'ayons pas encore vu. S'il y en a quelques-uns qui ont une requête sur leur cœur, levez rapidement les mains. Dieu sait. Merci. Brièvement les mains. Merci, merci. Dieu le sait. Dieu voit les mains. Dieu voit le cœur. Prions. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur, nous n'en pouvons rien que tu nous aies déterminé à la foi, déterminé à croire par l'élection. Avant même la fondation du monde, d'un saint appel, d'une sainte vocation, tu nous as appelés à te suivre. Ô Seigneur, tu as fait une nouvelle alliance avec nous. Tu nous as révélé les promesses qui s'appliquent à notre temps. Et maintenant, nous sommes ici dans la pleine confiance à toi, pas en nous, mais en toi, de ce que tu conduiras toutes choses merveilleusement à son achèvement pour le jour de ton retour glorieux. Bien-aimé Seigneur, tu connais les différentes requêtes et les supplications, quoi que ce soit à caractère de maladie, détresse, problème, épreuve, tu connais chacun individuellement, Seigneur. Nous te demandons maintenant ensemble que tu puisses être proche de tous ceux qui sont proches de nous, Seigneur. Tous ceux qui sont sur nos cœurs, les appeler, nous accorder la grâce à garder le pas avec toi et marcher digne de l'appel de la vocation céleste que nous avons reçue, car nous sommes un peuple saint, et tu as dit, je suis saint, et vous devez aussi être saint. Tu dis, je me sanctifie pour eux, pour qu'ils soient sanctifiés dans la vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé Seigneur, accorde-nous ta grâce pour en tout temps dans la foi recevoir ta parole avec la pleine conviction dans l'obéissance que tu pourras aussi la confirmer et que tu la confirmes. Bénis-nous tous, Seigneur. Sauve ceux qui sont perdus. Guéris ceux qui sont malades et délivre ceux qui sont liés. Confirme ta parole et glorifie toi-même ton saint nom, ô Seigneur, et conduis-nous à aller de l'avant. Prends-nous par la main et fais-le conformément à ta parole par ton Saint-Esprit. Nous te remercions de ce que jusqu'à aujourd'hui encore, tu as une Église du Nouveau Testament, elle existe. Une église qui revient à l'état primitif de l'église, qui croit comme le dit les Écritures, pas, elle n'est pas une organisation, mais elle est un organisme vivant, indépendante de tous les systèmes humains, mais elle est dépendante de toi. Mais que tu puisses nous placer sur le sol élevé et que, Seigneur, toutes ces heures-là aient servi à ce que nous ayons été rapprochés de toi. Ôte notre maladresse et notre hésitation, notre paresse. Ôte tout cela de nous et rends-nous brûlants, pleins de feu en esprit, prêts à te servir. Nous savons que tu nous as appelés pour te servir. Nous n'allons plus aux hommes. Nous venons à toi et disons, Seigneur, parle, car ton peuple écoute. Nous te remercions. Je te remercie de ce que nous avons été ramenés dans ta présence, amenés dans ta présence, pour écouter ta parole de ta sainte bouche directement. Et nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Bénis-nous et avec nous tous, ton peuple, de la plénitude de ta grâce, nous te remercions dans le saint nom de Jésus. Amen.